Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 16h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la première radio de France. C'est la curiosité de l'été, ce sont les meilleurs moments de l'émission et c'est jusqu'à 16h avec l'immense, la délicieuse Sidonie Bonnec.
Oui, vous avez remarqué, j'ai grandi. Bonjour Thomas, mais comment mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pris un coup de soleil, vous êtes rouge comme une tomate.
Mange des tomates nuit et jour.
N'importe quoi, j'ai pas pris de coup de soleil, mais j'adore les tomates, surtout l'été. La tomate fruit ou légumes, en tout cas, elles sont très présentes dans nos assiettes, même si on en consomme seulement quelques variétés. Vous allez voir, il en existe des milliers, aux goûts et aux couleurs très différentes. Notre invité est venu avec un panier garni.
Et tout de suite, scout toujours.
Prêt.
Oh, il me fait peur.
RTL.
Le scoutisme, en fait, c'était ma vie. J'avais ma vie familiale, il y avait la vie à l'école, il y avait la vie à la musique, et puis il y avait la vie chez les scouts.
La curiosité est un vilain défaut.
Donc on allait en proche banlieue, en Fontainebleau, Saint-Nom-la-Bretèche, on était en pleine campagne. C'est là que j'ai un jour emprunté la guitare de mon chef de patrouille et j'ai commencé à gratter dessus.
Minuit se lève.
C'est là où j'ai eu les premières histoires avec les filles. Tout s'est passé là.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous les avez aperçus sur les routes de France où vos petits-enfants font peut-être leur premier camp d'été. Et vous demandez, mais qui sont les scouts? Mais que font-ils? Quelles sont leurs valeurs et leur histoire? Bonjour Benoît Vandepute.
Bonjour.
Soyez bienvenus, vous êtes l'aumônier général des scouts et guides de France et vous publiez mon ABC du scoutisme, c'est aux éditions du CERF. Alors Jean-Jacques Goldman, un ancien scout?
Oui, un ancien parmi tant d'autres. Hein. Alors lui, il était éclaireur.
Ah. C'est quoi la différence?
Les éclaireurs, c'est d'abord le premier mouvement en France, après la fondation en Grande-Bretagne, en 1911, si je me souviens bien. Et puis, les cathos que je représente ici, eux vont apparaître après la Première Guerre mondiale. Et en tout cas, les éclaireurs sont laïcs, mais ça fait partie de la grande famille du scoutisme, avec le même type de fonctionnement, d'école, de méthode, de valeurs. Simplement, en France, à la différence d'autres pays, on a un mouvement par famille de pensée, on va dire, alors que dans d'autres pays, comme l'Angleterre, par exemple, il y a un seul et grand et unique mouvement, avec à chaque fois la petite chapelle pour les cathos, la petite chapelle pour les anglicans, la petite chapelle pour les musulmans. Chez nous, en France, on a un mouvement par famille.
Alors moi, ça me fait bien plaisir d'imaginer Jean-Jacques Goldman avec son petit foulard. Tiens, justement, ce foulard, c'est vraiment l'un des symboles, le symbole du scout. Il veut dire quoi, ce foulard? Il a une signification?
Bon, au départ, c'est sans doute un accessoire de l'uniforme des scouts, parce qu'il faut rappeler que c'est né quand même dans la tête d'un militaire. Hein. Au départ, le fondateur Baden-Powell est militaire.
Et on va raconter cette histoire,
bien sûr. Donc c'est un accessoire qu'on porte autour du cou.
C'est la Sainte Trinité?
Ça peut l'être.
Ce triangle?
Ça peut l'être, on peut y voir un symbole effectivement. Comme ça, c'est surtout un accessoire pratique. Hein. Quand il fait chaud, on le met sur la tête. Quand il fait froid, on le met autour du cou. Et puis voilà, c'est important parce que c'est le foulard qui fait le scout. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous alliez dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, vous portez un foulard si vous êtes scout.
C'est un signe distinctif.
C'est un signe distinctif.
Le foulard, chaque groupe, chaque famille de scouts n'a pas les mêmes couleurs, etc.
Exactement.
Etc.
Si, par exemple, quand vous faites partie de l'équipe nationale des scouts et guides de France, il est bleu, blanc, rouge. Si vous faites partie d'une unité dans les Antilles, il est madras. Si vous faites partie d'une équipe allemande, il va être noir, jaune, rouge, etc. Et on vous le remet. C'est pas quelque chose... C'est ce qui fait de vous un membre du groupe. Voilà.
C'est une cérémonie en quelque sorte.
C'est une cérémonie, ouais. on vous le donne si vous avez une mission et si vous faites partie du mouvement. C'est si vrai que quand vous devenez un adulte ou un grand aîné, que vous n'avez plus de mission à proprement parler, vous pouvez continuer à porter par exemple le foulard de Gilwell. Le foulard de Gilwell, c'est celui qu'on vous aura remis quand vous aurez fait votre formation, une formation un peu costaude, qui fait référence au parc de Gilwell.
On parle beaucoup du foulard, c'est bien le foulard, mais il y a un uniforme aussi, évidemment, avec. Oui. Il a beaucoup changé depuis 1907, le premier camp de scouts. Il est quoi? Il est inspiré par les troupes coloniales britanniques qui avaient un uniforme?
Bah, au départ,
à base d'un short et petite jaquette.
Je peux vous dire, j'ai été louveteau, moi. Le petit short en plein hiver, c'était des bons souvenirs. Hein, ça.
C'est des bons souvenirs. Alors, ça forge
un homme.
Ça forge la jeunesse.
Ça a un peu bougé en fonction des mouvements. Et puis moi, ce qui me semble important, c'est que l'uniforme aussi, je trouve ça, on parle beaucoup de tenue chez nous. Mmh. Ça varie d'un pays à l'autre. Ça a beaucoup surpris l'été dernier quand je suis parti avec des jeunes au Grand Jamboree. On y reviendra peut-être.
C'est une réunion qui a lieu tous les 4 ans.
Ça veut dire grand rassemblement.
Ouais.
Grand rassemblement.
Tous les scouts du monde.
Tous les scouts du monde. Et quand ils ont vu arriver ceux qui étaient en djellaba, arriver ceux qui étaient en kilt, arriver ceux qui étaient en sari, arriver ceux qui étaient en pantalon-chemise, mais avec un point commun qui est le foulard.
Quel que soit le pays et la confession, ça c'est important de le dire. Il y a combien de scouts en France et dans le monde? Ça représente un mouvement très suivi?
Je crois que c'est tout simplement le premier mouvement d'éducation de jeunes et d'éducation populaire au monde. On pense qu'on est à peu près quelque chose comme 50 millions et ça grimpe. En France, si on met tout ça bout à bout, tous les mouvements confondus, on doit être quelque chose comme 120 000, 140 000.
Et 500 millions de personnes ont été scouts dans leur vie.
Ça, vous me l'apprenez, mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Dont un, le Thomas Hugues de la curiosité.
Et Jean-Jacques Goldman.
De l'été. Et Jean-Jacques Goldman, je suis très très heureux. Alors, je n'étais pas éclaireur, moi j'étais louveteau scout d'Europe. Voilà. Je me souviens du foulard, il était bleu ciel et marron dans mon souvenir. Je ne sais pas s'il a changé.
Je ne verrai plus jamais de la même manière.
Avec un petit short en velours côtelé. Allez, on vous raconte l'histoire incroyable des scouts et surtout cette aventure qui a mené Lord Baden-Powell à les inventer à toutes les curieux.
Tout l'été, la curiosité sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les pieds gelés dans la rivière, le dos mouillé par tous les temps. Couvert de boue et de poussière, les pontonniers vont de l'avant.
Le scoutisme en France, c'est environ 140 000 personnes dans le monde, on l'a entendu à l'instant, plus de 50 millions. Qui a inventé ce mouvement? On va le découvrir tout de suite grâce à notre invité, l'aumônier général des scouts et guides de France, Benoît Vandeput. On est en 1899, petit voyage dans le temps, pour découvrir Lord Baden-Powell dans un contexte bien particulier. On est en Afrique du Sud, c'est quoi? C'est la guerre?
C'est la guerre. Alors, il n'est pas encore lord à ce moment-là, hein, mais il est général. C'est la guerre des paysans. Hein, c'est la traduction du mot flamand, du mot africain de bourg. La guerre des bourgs, c'est une guerre coloniale, en fait, hein, ni plus ni moins. Les Anglais qui veulent mettre la main sur l'Afrique du Sud, la Namibie, toute cette région. Il y a beaucoup de diamants, il y a beaucoup de richesses. Et puis, Baden-Powell est assiégé dans une ville qui s'appelle Mafeking. Et puis le siège dur. Et il a l'idée de galvaniser un peu tout le monde. Il a l'idée surtout de faire tenir toute la population qui tient dans cette ville grâce à son moral, grâce à son caractère.
Donc il faut les occuper, c'est ça ?
Il faut les occuper. Et puis il faut aussi tromper l'ennemi, faire croire qu'on est très nombreux, qu'on va résister. Et il voit qu'il y a des jeunes qui sont là et il décide de leur faire confiance. Alors ça peut sembler, et c'est assez insupportable à nos oreilles de modernes, hein, le fait d'utiliser des adolescents pendant un conflit.
Avec des missions,
Il ne les a pas envoyés au front, hein, mais voilà, c'est des missions pour porter du ravitaillement, peut-être
faire des informations.
De l'observation. Scout, ça veut dire éclaireur, hein, littéralement. Mmh. Et puis, de ça, il tire une leçon, c'est que ces jeunes, à cet âge-là, sont dignes de confiance. Ça a l'air tout simple aujourd'hui, ça a l'air basique, mais à son époque, c'est proprement révolutionnaire. Et il va construire une méthode de façon empirique, comme ça.
Et donc, à la libération de la ville en Afrique du Sud, le 16 mai 1900, Baden-Powell est acclamé, c'est un héros.
Il est devenu le héros national du Royaume-Uni, parce que au fond, il a donné une action d'éclat à une guerre qui est tout sauf éclatante. Parce que la guerre des bourses a été une guerre, comme toutes les guerres, sale. On a inventé les camps de concentration, mais des camps d'internement très très durs où on enferme les femmes, les enfants, voilà.
Et ces observations à Baden-Powell sur le rôle des enfants, la confiance qu'on peut leur faire, il va en faire un livre, c'est ça ? Une philosophie,
c'est
presque ?
C'est ça, il écrit
qu'il va appeler le scouting.
Scouting for boys.
Scouting.
Voilà, exactement, c'est-à-dire être un éclaireur. Et puis très très vite, ça va devenir une aventure aussi pour les femmes, puisqu'on aura les guides. Et il va être novateur. Hein,
Mais comment on passe de ça, de cette philosophie, de cette confiance dans les jeunes, à des camps de scoutisme qu'il va organiser?
Parce qu'il se rend compte que ça marche, tout simplement. Il a une méthode, il fait confiance à des jeunes, il leur confie des missions et il voit que ça marche à une époque où c'est juste l'éducation, hein, c'est la contrainte, c'est la trique, c'est la discipline, c'est l'obligation, c'est le par cœur, c'est je te fais pas confiance, c'est tu m'obéis, c'est là non. Il va donner de la responsabilité aux jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont au fond les premiers responsables d'eux-mêmes, et il va encore une fois leur faire confiance.
Mais ça, c'est une inversion de logique qui est vraiment étonnante et très importante. Vous le racontez dans votre livre, Benoît Van de Put, Mon ABC du scoutisme, publié aux éditions du CERF. Donc, si Denis disait, il passe d'une bonne idée lors d'un conflit à un livre, puis à une organisation. 1907, le premier camp scout. Ça se passe comment
Ça se passe très peu de temps après, ouais. Et il fait ça sur l'île de Brownsea, dans la mer du Nord, où il va mettre en œuvre sa méthode avec des jeunes qui viennent un peu de tous les milieux. C'est un peu aussi ça qu'il a essayé de promouvoir au départ.
Du brassage social aussi.
Un brassage social, et encore une fois, pour montrer que... Voilà, il y a 5% de bons au moins dans chaque personne, c'est une de ces citations, ça.
Au moins.
Alors,
ce scoutisme... Moi, il est lucide.
Hein. On peut toujours construire dessus.
C'est ce que je me disais de Thomas, il y a au moins 5% de bons.
Oh, je suis peut-être à 5,5. Non, à votre comptage, je suis passé à 5,5.
Ah, non, mais t'as 99%, évidemment.
Ça, c'est pas possible.
Ce mouvement, Benoît Van de Put, il va vite prendre de l'importance, de l'influence, il va inspirer les autres pays, le scoutisme va s'élancer comme ça,
bah oui,
à l'assaut du monde.
En fait, on se rend compte, encore une fois, bon, d'abord, c'est aidé par la culture de l'Empire. Hein, c'est un sujet de l'Empire britannique. Ça va se répandre dans tout l'Empire britannique de l'époque. Mais très vite, ça va sauter les frontières. Il faut dire qu'il est un peu dans l'air du temps. Hein. À la même époque, il y a une Italienne, une vraie pédagogue, celle-là, hein, qui s'appelle Maria Montessori, qui invente la méthode qui porte son nom. Et les deux vont un petit peu se rencontrer. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne fait plus de théorie qu'on applique aux enfants, mais on fait faire aux enfants.
Bel été, les curieux. Sur RTL.
Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Chapeau Baden-Powell et chemise repassée, chaussettes jusqu'au mollet et foulard enroulé. Et moi j'ai rien de cela, sérieux, enlève-moi ça. Casquette à l'envers.
RTL.
Je suis pas scout comme ça, pas la peine de rentrer, je suis pas...
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis pas scout comme ça.
On passe du gaufret qui motive les scouts et pas que au rap des scouts de Quin.
Ça, c'est improbable.
C'est super quand même.
C'est pas mal. Ouais.
C'est génial. Alors, qui sont ces scouts que l'on aperçoit l'été sur les chemins de France et pas seulement l'été? Les réponses avec notre invité Benoît Van de Put, l'aumônier général des scouts et guide de France. Rien que ça. L'été, c'est vrai que c'est un moment fort pour les scouts, notamment avec le fameux camp d'été. C'est, on peut dire, le plus grand rassemblement de l'année.
Bah, c'est un petit peu le point d'orgue de toute l'année. C'est le grand moment, effectivement, où on va essayer de concrétiser les projets qu'on a construits, tout ce dont on a rêvé. On s'est fixé un but, on s'est fixé un objectif. On a eu un rêve, on s'en est donné les moyens. Et puis voilà, on part à l'aventure.
Alors ce rêve, c'est quoi? C'est une ville? C'est un campement qu'on va créer de zéro?
Ça peut être... D'abord, c'est une petite ville, alors on peut parler comme ça. Oui, ouais. Eux-mêmes construisent leur propre petite, leur camp de base, leur village, leur lieu de vie, quoi, avec là où on dort, là où on mange, là où on joue, là où on cuisine, très important.
On dit construire.
Là où on prie aussi, ouais. Pour ceux qui sont dans cette sensibilité-là. Et puis.
Mais construire, ça veut dire quoi, Benoît?
Ah ben,
ça veut dire fabriquer sa, monter ses tentes ensemble. Fabriquer quoi, sa table?
Ça veut dire qu'on fabrique sa table, ça veut dire qu'on fabrique sa table à feu, ça veut dire qu'on monte ses tentes, on les monte plutôt là où on risque, ou justement non, où on ne risque pas d'être emporté par une inondation. Enfin,
c'est quoi une table à feu?
Une table à feu, bah, c'est voilà, vous mettez des rondins de bois, vous les montez, au-dessus vous mettez de l'argile pour que tout ça ne brûle pas en dessous, et puis vous faites la cuisine au-dessus.
On n'a pas parlé de l'organisation, parce que c'est quand même important. Parmi les scouts, il y a quoi? Il y a des sizaines, c'est ça? Ça
oui,
existe
alors,
toujours?
Chaque mouvement a un petit peu son... Ces appellations contrôlées, on va avoir des unités, on va avoir des sizaines, on va avoir des tribus, on va avoir des caravanes, on va avoir, voilà, ça dépend des âges, ça, un peu en fonction. Je parle surtout pour les scouts et guides de France, là, que je connais un petit peu mieux.
Et c'est, est-ce qu'il y a une hiérarchie?
Ah bah, il y a une organisation, en tout cas, c'est-à-dire que c'est à la fois... Chacun a sa voix, chacun s'exprime, chacun peut apporter sa pierre à la construction, mais il y a aussi des responsabilités, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Les responsabilités peuvent être tournantes aussi, c'est-à-dire que voilà, on prend chacun un tour de rôle, une responsabilité dans l'équipe. Et puis il y a quelque chose de très très important dans la méthode scout, c'est ce qu'on appelle les conseils, hein, c'est-à-dire qu'on tient conseil, on discute ensemble de ce qu'on va faire, de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu.
C'est de la démocratie, en fait.
C'est de la démocratie, au fond. Oui.
Il y a des filles aussi chez les scouts?
Alors, chez les guides.
Ouais.
C'est scouts et guides de France, voilà, avec des caravelles, voilà, des Jeannettes.
Pourquoi elles n'ont pas le même nom? Pourquoi on ne les appelle pas des scouts?
Parce qu'au départ, ça s'est créé chacun de son côté, voilà, tout simplement. Et puis maintenant, dans...
Donc ça veut dire que ce n'est pas mixte, les camps ne sont pas mixtes?
Alors les camps ne sont pas mixtes, mais ils peuvent être coéduqués. Ça, c'est chez nous. Encore, ouais. C'est chez nous, bien chez nous.
Ça veut dire quoi, coéduqués?
Ça veut dire que, si vous voulez, vous avez des équipes de garçons, des équipes de filles, voilà, qui sont séparées, hein, voilà, avec des activités propres aussi parfois, mais aussi des activités ensemble. Ça, c'est la coéducation. Alors on imagine que c'est quelque chose de très très récent, pas du tout. C'est une méthode éducative qui a été pensée dans les années 20, ça. Tandis que chez nos amis, par exemple, le Scout Unitaire de France ou le Scout d'Europe, Scout et Guide d'Europe, ben là, on a vraiment, chacun est resté de son côté. Voilà, c'est d'autres choix qui ont été faits.
Pour moi, le scoutisme, c'est 1985, je suis devant ma télé et je découvre ce film avec Gérard Jugnot, Scout toujours.
Scout toujours.
Moi, je le fais.
C'est toujours ce cri de ralliement.
Moi, j'entends Scout toujours, je crie prêt tout de suite. Ouais. Je ne peux pas m'en empêcher. Oui, c'est plus fort que moi. N'importe qui peut participer. Peut
je vais vous étonner, comment je ne l'ai pas vu.
Vous ne l'avez pas vu? Ah, il est génial. Mais est-ce que c'est toujours ce cri de ralliement?
Ah, ça peut être ça, oui. Ouais. Ou celui-là, ou bien plein d'autres. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est quelque chose qui se réinvente tout le temps. Donc, ils vont trouver des nouveaux codes, des nouveaux cris, des nouveaux chants aussi. On les a entendus tout à l'heure faire du rap.
Si on veut s'inscrire, il faut être catholique forcément, il faut être.
Alors non, pas du tout. C'est un mouvement. Alors, pour les Scouts et Guides de France, c'est un mouvement catholique ouvert à tous. Ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa philosophie, sa manière de vivre s'inscrit dans l'Église catholique. Mais vous allez avoir les éclaireurs et éclaireuses unionistes. Ça, c'est les protestants, les laïcs, les israélites aussi. Voilà, tout est possible.
Scout un jour, scout toujours. Alors on
Ça, j'assume ça.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous publiez mon ABC du scoutisme avec plein d'autres infos, c'est aux éditions du Cerf. Merci infiniment.
Merci à vous.
Comment s'appelait ce groupe, Sidonie? La SketchUp.
Ah oui.
Eh oui, parce que André Facetta, notre réalisateur, a toujours la bonne musique.
J'allais dire la Svoutarde, mais ça ne veut rien à voir.
Ça marcherait pas parce qu'on va tout vous dire sur la tomate.
Cet été, soyez fiers d'être curieux avec RTL.